Alors, c'est vrai que vous avez déjà, au jour d'aujourd'hui, beaucoup parlé de ce nouveau livre, Jour de souffrance, Catherine Millet. Nos auditeurs, d'ailleurs, vous ont déjà entendu dans d'autres émissions de cette chaîne. Ils ont sans doute lu des articles aussi, des
J'ai
entretiens dans la
beaucoup de
presse.
chance, j'ai
Non,
beaucoup de chance.
mais il ne s'agit pas ici de s'en excuser, mais de noter combien ce livre a suscité une formidable attente. Alors, dû bien sûr aussi au succès de la vie sexuelle de Catherine M., un des succès les plus inattendus des dernières années dans notre pays et dans bien d'autres. C'est un livre qui a été publié en 2001, 45 langues, je crois, de
Ouais,
traduction.
il y a eu 45 sessions de droit
Voilà,
à
donc ce qui est quand
l'étranger.
même effectivement une sorte de phénomène
Ouais.
qui dépasse, j'imagine, tout ce qu'on peut comprendre. Hein. Il y a un moment donné où les choses ont une telle ampleur qu'elles dépassent toute explication très rationnelle. Mais enfin, ici, avec Jour de souffrance, vous répondez à l'interrogation que vous renvoyez souvent, vos lecteurs, de ce livre précédent. Comment avez-vous fait avec la jalousie? Alors, tant et si bien que vous avez décidé de raconter très précisément, aussi précisément que votre vie sexuelle, là, très grave et très longue. Alors, je vais dire crise de jalousie, même si le mot est assez peu employé dans le livre. 3 années que vous avez traversées. Alors, restituées dans le contexte, on a voilà, le parcours de la jeune Catherine Millet jusqu'à cette crise. Et après, on pourrait dire que c'est une sorte de dark side of la vie sexuelle de Catherine Millet que ce livre-ci.
Oui, on peut dire ça, oui, c'est vrai.
Parce qu'il recouvre la même période, hein,
Oui, plus,
pour
oui,
partie.
bien sûr, oui. En fait, c'est, cette crise qui est racontée dans Jours de souffrance précède le moment d'écriture de la vie sexuelle, mais du coup se superpose à des épisodes qui étaient racontés dans la vie sexuelle. Et en effet, c'était pour moi une chose d'autant plus imprévisible, d'autant plus et d'autant plus douloureuse que j'étais pas préparée à me découvrir un jour jalouse. Voilà. Donc, en fait, le livre, j'ai éprouvé le besoin, en effet, de remonter un petit peu en arrière, de remonter jusqu'à l'enfance, parce que j'avais en fait deux idées avec ça. D'abord, je voulais rappeler ce qu'avait été la relation justement que j'avais eue avec mon corps et ce corps de plaisir dont j'avais usé et abusé pendant très longtemps et d'où ça venait, de l'enfance, etc. Ça, c'était un des objectifs. Et l'autre objectif, c'est que je voulais aussi articuler le récit de cette crise de jalousie avec, je ne peux pas dire la découverte de l'écriture parce que ça faisait longtemps que j'écrivais, que je publiais des livres sur l'art, etc. Mais le basculement dans, oui, l'écriture d'autres choses que, comme je dis, d'autres choses que des livres d'art. Et ça a été l'écriture de la vie sexuelle de Catherine M. Et en effet, il avait fallu que je traverse cette crise de jalousie pour finalement me mettre au travail. Oui.
Enfin, la première fois où vous dites à quelqu'un que vous écrivez, c'est quand même un moment qui est au tout début de ce livre, qui est un moment absolument fondateur pour vous. Et puis, alors, le moment où vous le dites à votre mère, bien plus encore, hein, ce qui ne devait être qu'une parole tout juste destinée à rassurer une mère inquiète, elle a laissé aller sa fille quitte, impatiente de rejoindre son jeune amant, objectiver un désir peut-être aussi puissant que celui qui poussait cette fille vers son amant et rester enfoui, parce que bien plus énigmatique, plus difficile à expliquer. Moi, je crois que c'est plus un. Enfin, plus. C'est beaucoup un livre sur le désir d'écrire.
Oui, c'est vrai. Merci beaucoup de le remarquer, parce que, en effet, très souvent, là, ces jours-ci, je suis interrogée sur ma vie, sur ma jalousie, sur mon, comment dire, le couple que je forme avec Jacques-Henri et comment on traverse tout ça ensemble, mais que je suis moins souvent interrogée sur ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est comment vous vient le désir d'écriture, en fait, et quels sont les accidents finalement qui font que on bascule de ce désir dans le travail même d'écriture. Oui, c'est vrai que j'ai essayé de là aussi de comment dire creuser ce sujet-là assez profondément.
Vous regardiez Atik Raïmi pour savoir sans
Ben
doute comment
oui.
lui il était venu le désir d'écriture, Atik Raïmi.
Oui.
Oui, bon, enfin, je reviens au livre de Catherine. C'est vrai qu'entre les deux livres, ce que j'ai adoré, c'est justement cette dichotomie. Bon, enfin, elle ne dit pas que corps et âme, mais
Mais
corps
elle
et
parle de
être.
dédoublement dans le livre,
Mais
hein.
corps et être. Et autant dans le premier, il y a la question du corps, mais dans le deuxième, je trouve la question de être.
Oui.
Mais vous ne répondez pas à la question quand vous
Ouais.
posez votre propre
Oui,
désir d'écrire. Alors,
Ah
on y
oui.
revient,
Ah,
Olivier
oui,
Catamier.
alors là, justement, pour moi, c'est l'écriture, c'est pour moi la mise en mots du corps.
C'est une jolie formule.
Écoutez, voilà une réponse concise. Allez, tiens, Antoine Guillot.
S'il y a dichotomie aussi, et ce que raconte également ce livre, c'est un passage du subjectif à l'objectif. Et on compte plus qu'une un dark side de la vie sexuelle de Catherine M. Moi, j'y vois presque un making-of, d'une certaine manière. Oui. C'est-à-dire que vous racontez un moment, et c'est peut-être une définition de la jalousie, comment, à un moment, vous êtes exclu de votre propre imaginaire. Vous racontez ces fantasmes onanistes qui vous ont habité toute votre vie. Et puis, tout d'un coup, vous êtes dépossédé même de cet imaginaire-là, où c'est plus vous qui agissez, vous devenez spectatrice. Et ce que vous racontez à la fin, c'est que quand vous écrivez la vie sexuelle de Catherine M, et qu'elle, tout d'un coup, vous avez un roman sous les yeux, et que cette objectivation, finalement, elle est belle, et c'est très beau et confortant, d'une certaine manière, de se dire, voilà, ma vie a été un roman, et je suis maintenant, j'ai cette extériorité, mais dont je ne souffre plus, que je peux maintenant assumer.
Oui, c'est exactement ça. Alors, je ne suis sûrement pas la première à avoir fait cette expérience, mais c'est vrai, enfin, c'est quelque chose que je crois j'ai vraiment senti émerger en moi, quoi. Le fait de faire retour comme ça sur sa vie et de s'apercevoir qu'avec le temps, on la relit différemment, on la replace aussi dans un contexte, des fois un contexte historique d'ailleurs, pour ce qui est de la vie sexuelle, c'était beaucoup le... Pour moi, j'ai eu 20 ans en 1968, donc il y avait ce contexte-là. Et j'ai fait ressurgir comme ça tout ça. Et c'est vrai, je me dis qu'après tout, c'est une façon de se mettre d'accord avec sa propre vie, quoi, en fait. Oui.
Vous écrivez « Je ne saurais pas dater de façon très exacte le moment à partir duquel, pour le dire de façon concise, mon corps s'est dissocié de mon être. La prise de conscience la plus claire en a été à l'occasion de l'écriture et de la publication de La vie sexuelle de Catherine M. Le succès rencontré par le livre accentua encore le phénomène. » Donc ce dédoublement, vous en parlez. Alors une chose très importante dont vous parlez, ce sont les rêveries, leur fonction et leur fonctionnement. Et je crois que la dernière fois que... J'avais le plaisir de vous recevoir dans cette émission, Catherine Millet. C'était à propos de votre livre, très bon livre, Dali et moi.
Ouais.
Et on avait parlé ensemble, alors il était paru chez Gallimard. Il était beaucoup question de la pratique onaniste de Dali. Et vous faisiez vôtre cette phrase de Dali qui expliquait que le masturbateur a besoin de voir. Ce que je cherche, ce n'est pas l'orgasme, c'est la vision qui serait capable de produire l'orgasme.
Oui, oui, oui. On est vraiment dominé par... par le désir d'esthétique, si je peux dire les choses comme ça. Oui, c'est assez fou. D'ailleurs...
Parce que cette question de la vision, elle est au cœur de ce livre.
Oui, absolument. Alors, le travail que j'ai fait sur Dali, je crois qu'il a été nécessaire. C'est vrai qu'à un moment donné, je m'étais posé la question. Est-ce que je me remets tout de suite à écrire un ouvrage autobiographique, et celui-ci était déjà quelque part dans ma tête, donc j'aurais pu le faire. Et puis j'ai choisi plutôt de faire le détour par Dali, parce que j'avais envie un peu de me distraire de Catherine M. J'avais passé beaucoup de temps avec elle, justement, toujours le dédoublement. J'avais envie de la laisser un petit peu. Mais ça a été nécessaire, ce travail que j'ai fait sur Dali. D'abord, comment est-ce que ça m'a fait apparaître, ou en tout cas mieux comprendre, de la relation qu'il y avait entre une sexualité onaniste et puis la pulsion scopique, quoi, le désir de voir et de voir encore plus et de voir encore mieux et de pouvoir pénétrer par l'imagination, dans les images, pour s'en créer de nouvelles, etc. Et ça, c'est quelque chose que je connais très bien. Je crois que j'ai vécu en empathie avec Dali tout le temps que j'ai travaillé sur ce livre, et que j'avais, est-ce qu'on peut dire les choses comme ça, un outil théorique à l'issue de l'écriture de ce Dali pour me mettre au travail avec cette distance, comme ça, ce recul par rapport à ma propre vie, pour raconter cette crise de jalousie, qui en effet s'est beaucoup manifestée par cette captation de l'imaginaire, comme vous l'avez souligné, qui est assez terrorisante quand même, parce que vous vous dites quoi, ces obsessions, c'est pas simplement comme ça, on y pense dans la journée, on se dit « Ah là là, oui, tiens, hier, Jacques était peut-être avec son ami, ça me fait souffrir, etc. » Non, c'est qu'au moment même où je voulais être la plus au cœur de mon plaisir à moi, de mon plaisir très, très intime, eh bien, ces images, Jacques avec une autre, revenaient, alors que j'avais mis des barrières, j'avais essayé de m'en défendre. Oui.
Ça vous intéresse beaucoup de savoir pourquoi vous, avec toute l'intelligence qui est la vôtre, vous plonger dans ces stéréotypes habituels de la jalousie, et en même temps qui peut prétendre s'en éloigner. Mais vraiment, je conseille à tous les lecteurs de La vie sexuelle et de Genre de souffrance de lire aussi Dali et moi. Je crois que c'est un véritable triptyque de fait que ces trois livres fonctionnent vraiment ensemble. Antoine Guillaume.
Oui, précisément parce que vous dites partager avec Dali la notion de paranoïa critique. Et ce qui est un atout pour vous dans votre travail de critique d'art se révèle être un handicap dans votre vie, puisque c'est à cause de ça, précisément, que se déclenche la crise de jalousie.
Ça donne autant de souffrance que de jouissance en même temps.
Parce qu'en fait, c'est... D'ailleurs, est-ce que c'est un livre uniquement sur la jalousie ? Je ne crois pas. Alors,
un livre sur la critique d'art, sur l'écriture, non mais c'est vrai.
C'est aussi un ouvrage, je crois, sur la douleur et sur, comment on peut dire, la folie paranoïaque et la douleur qu'elle entraîne. Parce que, disons que, l'infidélité, mais c'est même pas infidélité de Jacques, mais enfin le fait que Jacques ait sa liberté sexuelle, c'est quelque chose dont je me doutais bien. Les preuves sur lesquelles je suis tombée, c'est des preuves vraiment infimes, c'était presque rien, quelques photos comme ça, en plus, qui montraient pas tant de choses que ça.
Bah, bon. C'est bien pour ça que ça donne prise.
Mais c'est après la manière dont, d'une façon, il faut dire, quand même névrotique, l'imaginaire s'empare de ce peu de choses pour construire un grand délire paranoïaque, je dois dire. Alors, je ne sais pas si je vais égaler mon maître en la matière, à savoir Salvador Dali, mais je dois dire que j'ai fait pas mal quand même. J'ai fait pas mal, hélas. Et là, je veux dire... Hélas, vous vous rendez compte que l'intelligence, que la culture, ça ne vous sert pas à grand-chose, que vous pouvez plonger là-dedans comme vraiment si vous n'aviez pas lu tous ces livres de psychanalyse, comme si vous n'aviez pas été vous-même en analyse, etc. etc. Et que, voilà, c'est, je crois, beaucoup de temps. C'est peut-être un peu, en ce qui me concerne, le travail d'écriture. C'est aussi, je dois dire, la relation tout à fait privilégiée, finalement, que j'ai la chance d'avoir avec Jacques Henrique, qui m'ont aidé à en sortir.
Ouais, connaissant tous les obstacles et voyant à l'avance, ben vous y foncez quand même, évidemment, tête baissée.
Ouais,
et vous le dites aussi avec autant de souffrance que de complaisance aussi, une forme de jouissance à être
tombé
dedans. Oui,
de se dire à un moment donné que voilà, il y a une grande part de masochisme dans tout ça. Ouais.
Alors, vous avez écrit un texte pour le tiré à part du magazine littéraire, hein, pour les livres qui sont sélectionnés, je crois, pour le prix FNAC, où vous parlez de votre propre livre et vous écrivez ceci en conclusion, que le premier, faisant référence à La vie sexuelle de Catherine M, était que celui-ci, plus que le premier, était un livre pour partager. Et vous concluez ce texte en disant: je vous souhaite donc une lecture d'où il soit possible de sortir, soit ouvert à plus de tolérance, soit racinéré. Vous, vous êtes sorti comment de l'écriture de Genre de souffrance?
Oui, racinéré, oui, on peut dire ça, oui. Mais c'est vrai que j'écris un peu pour avoir des retours, ça c'est vrai. J'ai toujours envie de dire, voilà, écoutez, pour moi ça s'est passé comme ça, alors pour vous, comment ça s'est passé? Voilà. Et quand, pas pour, dans une émission de radio, on n'a pas le temps, et puis je vous demanderais trop d'être impudique à ce moment-là. Mais parfois, les interviews pour la presse écrite, bah vous savez, le journaliste, à la fin de l'interview, il se confie un peu comme ça. Moi, je dois dire, j'aime beaucoup ça.
Bon, on fera peut-être ça, mais alors après.